Nous avons vu la dernière fois que la philosophie morale était elle-même une philosophie très délimitée, qui était en besoin d'autre chose, voyez, qu'un simple travail philosophique. D'abord, elle était elle-même dépassée dans l'ordre, je dirais, de la spéculation, puisqu'il fallait se réfléchir sur la nature du bien, sur la nature notamment du bien humain. Qu'est-ce que c'est que le bien que l'homme doit rechercher? Donc, qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce qui convient à l'homme? Et à cause de ça, il faut avoir une réflexion sur la nature humaine. Mais aussi du côté, non plus de la spéculation, mais vraiment de l'action, il y avait différentes choses à penser. Quelle est la nature humaine étant sauve, aussi ce qui me convient le plus à moi, ce qui convient le plus à telle ou telle personne. Donc aussi réfléchir à la nature telle qu'elle s'individualise dans un être. Puis réfléchir aussi aux circonstances particulières de l'action qui fait que dans telle circonstance, je dois agir d'une manière voilà, qui applique le précepte avec prudence. Ensuite, on avait mentionné un autre aspect qui était fondamental, qui était les conditions matérielles de l'exercice de la vie bonne. Souvent, c'est quelque chose qui est oublié et toute une certaine sagesse a eu tendance à nous dire « Vous pouvez atteindre la vertu ou vous pouvez atteindre le bonheur indépendamment des circonstances matérielles. » Vous voyez, ça a été d'ailleurs un des enjeux fondamentaux du stoïcisme. Mais Aristote estime, bon, c'est une question qu'il faut se poser, hein, qu'il y a quand même des conditions matérielles minimales. Et que si la pauvreté peut aiguiser les vertus, ça n'est peut-être pas le cas de la misère, d'où le drame, si vous voulez, de certaines conditions misérables, etc., qui font qu'on ne peut pas accéder au plein déploiement de la vie et de la vie vertueuse. Donc, ça, c'était un point fondamental qui montrait aussi que, d'une certaine façon, et ça, c'est un point qui est décisif pour Aristote, la philosophie morale ne concerne pas simplement la vie individuelle. La philosophie morale peut être une morale de l'individu, mais vous savez qu'il y a trois types de morale chez Aristote, ce sera repris par Thomas d'Aquin. Hein. Il y a la morale individuelle, que dois-je faire, qu'on appelle aussi morale monastique dans le latin classique, parce que, vous voyez, monastique, ça veut dire pour une seule personne. D'accord ? Puis, il y a la morale à l'intérieur de cette première communauté qu'est la famille, qu'on appelle la morale domestique ou la morale même économique, de l'oïkos. Et puis, il y a la morale à proprement parler politique, à l'échelle de la cité. Or, comme Aristote dit que le bien de l'homme ne peut s'atteindre que dans une cité, pas simplement dans une famille. Vous voyez, il faut aussi, la famille, elle ne se suffit pas, elle n'est pas apte à transmettre tout l'héritage de la culture, tout l'héritage des traditions, de la religion, etc. Donc il faut forcément une communauté plus vaste que la famille. Et dès lors, la morale est d'abord, premièrement, essentiellement politique. Au sens fort du terme, hein. C'est-à-dire vraiment, je ne peux pas simplement en morale, et là c'est un autre problème, vous voyez, auquel on est confronté, je ne peux pas simplement réfléchir sur ce qui est bon pour moi, comme s'il s'agissait simplement de tirer mon épingle du jeu. Si j'ai compris que je suis un être, un animal politique, un être social, que ma personne se réalise dans une communauté, à ce moment-là, le bien de la communauté, c'est aussi mon bien, et je dois donc m'interroger en morale, sur le bien commun. Donc vous voyez que tous ces points sont des points fondamentaux que pose Aristote au départ. Et puis alors, il y a autre chose, et c'était la dernière remarque que je vous faisais en vous quittant la dernière fois, c'est que, en plus, il ne s'agit pas simplement de savoir en morale. Il faut encore pouvoir. La question, ce n'est pas seulement qu'est-ce que le bien, mais comment est-ce que je vais pouvoir le faire ? Et ce n'est pas une question simplement technique. Comment est-ce que je vais pouvoir ? C'est une question qui relève de l'appétit, vous voyez, de comment est-ce que je vais... Je vois que c'est bien, mais je ne vais pas. Vous voyez ? Je sais ce qu'est le bien, mais ça, c'est la situation morale typique. Savoir, éventuellement même vouloir, mais d'un vouloir un peu velléitaire, vous voyez, ce n'est pas une pleine volonté. Et voilà, et on ne fait pas le bien que l'on sait. Ça, c'est notre vie, c'est la monnaie courante, si vous voulez, de la morale. Et donc, le problème n'est pas qu'une rectification de l'intelligence, c'est aussi une rectification de l'appétit, du désir. Et même, c'est le point de départ, il faut que le désir soit ordonné au bien. Il faut que je veuille le bien. Mais pour le vouloir, il ne suffit pas du volontarisme, parce que nous ne sommes pas des anges. Vous voyez, quand un ange veut être purement spirituel, il veut, c'est bon, il veut, quoi. Mais nous, quand on veut, il y a aussi toutes nos facultés sensibles, notre appétit sensible qui nous entraîne vers autre chose. Donc, il faut vouloir le bien, parce qu'on peut vouloir le mal, hein, si vous pouvez, bon. C'est pas les facultés sensibles qui sont simplement un poids dans l'ordre du mal, c'est parce que, vous voyez, les démons n'ont pas d'appétit sensible, et ils sont parfaitement mauvais. D'accord ? On ne peut pas croire que c'est le sensible qui est le problème. Vous savez, quand le Christ dit « l'esprit est prompt, mais la chair est faible », ça vaut dans l'ordre du bien, c'est-à-dire je veux faire le bien et puis tout d'un coup je vois que j'ai ce poids, vous voyez, derrière moi, mais ça vaut aussi dans l'ordre du mal. Souvent, c'est notre corps qui nous retient d'aller jusqu'au bout du mal. Vous voyez ? Parce qu'on tombe malade, par exemple. On s'était préparé à commettre un assassinat, voyez, avec beaucoup de bonne volonté, je dirais, dans l'assassinat. Voyez, on avait tout préparé, prémédité, et voilà que on chope une sale grippe, quoi. Et là, c'est dommage. Donc, faites attention. Hein, il ne faut pas voir le corps uniquement. Au contraire, souvent d'ailleurs, le corps nous alerte quand on va trop. Dans la perversité, etc., vous voyez, il y a aussi cette alerte du corps qui nous dit « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc faites attention, le corps, il ne faut pas être dans un dualisme où c'est la volonté qui vise le bien. Et c'est pas, non, il faut justement qu'une fois que la volonté vise le bien, il faut que l'appétit, mais peut-être que c'est d'abord nos appétits sensibles qui doivent être ordonnés et habitués au bien. Et donc, vous voyez, il y a toute cette rectification, et en finissant, je vous avais dit qu'Aristote disait que les jeunes gens avaient beaucoup de mal à parvenir à cette rectification des passions ou des appétits sensibles, parce que, vous voyez, ils étaient à un âge où c'était effervescent, etc. Voilà. Donc, c'était l'introduction, et à présent, je voudrais qu'on évoque une première pensée morale. Alors, je vous explique un peu quel est l'enjeu de ce cours. Ce cours ne va pas être un cours à proprement parler de philosophie morale, mais plutôt, parce que c'est mon travers, hein, moi j'ai toujours tendance à penser plutôt au niveau des principes, soit du côté des principes, soit du côté romanesque, vous voyez, mais j'ai du mal entre les deux. On va essayer de voir plusieurs manières de penser la morale. Plusieurs, on pourrait dire, systèmes moraux. Et l'enjeu, ce n'est pas tellement de savoir, au fond, ce qu'ils ont dit, mais plutôt la manière qu'ils ont eue de présenter la question morale. Donc, on va aborder plusieurs doctrines. Pour faire bref, on va commencer par l'une des plus accessibles, je dirais, des plus immédiates, c'est-à-dire l'hédonisme, à travers Épicure. Puis, on passera à l'utilitarisme, doctrine très à la mode, mais qui dérive en grande partie de l'hédonisme. Puis, on ira vers le stoïcisme, qui va être un premier renversement. On verra la philosophie morale de Kant. Et comme transition vers une philosophie, je dirais, plus aristotélicienne, mais aussi peut-être plus proche de la morale chrétienne, nous passerons par Nietzsche, qui est un des plus grands penseurs de la morale et celui qui a posé vraiment les problèmes les plus profonds et auxquels il faut répondre. Donc, on va commencer là avec, vous avez reçu une feuille, leçon numéro 1, ce que j'ai appelé critique de la raison hédoniste. Alors, comment naît en nous la question morale ? De manière très simple. Souvent, on pourrait croire que la morale est un obstacle à la liberté et un obstacle à la joie ou au bonheur. Dès que quelqu'un fait de la morale, on le voit comme quelqu'un qui nous dit « voilà ce que tu dois faire » et donc qui vient d'une certaine façon contraindre ou limiter notre liberté. Et de l'autre côté, qui nous dit « bon, voilà quel est ton devoir ?» Donc quelque chose qui serait de l'ordre de l'effort et qui ne nous rend pas spécialement joyeux. Mais cette vision-là est une vision complètement partielle et à la limite qui correspond à des phénomènes réels, mais transitoires, parce que l'essentiel de la question morale se fonde sur la liberté, le libre arbitre, et on va dire, on va appeler ça le bonheur provisoirement. Vous verrez qu'avec Nietzsche, on critiquera l'idée que le but de la morale, c'est de trouver le bonheur. Enfin bon, une catastrophe. Je déteste le bonheur. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que le mot bonheur a renvoyé très facilement au bien-être et à cette idée de se sentir bien, quoi. Mais est-ce que c'est ça, l'enjeu ? Enfin bon, provisoirement, je vais garder ces expressions-là. Donc, je suis libre. Ah, si je suis libre, ça veut dire que mon bien, je n'y parviens pas spontanément, par instinct. C'est ça la différence entre l'homme et les autres animaux. L'animal n'a qu'à se laisser croître. Vous voyez, à partir du moment où il a des conditions qui conviennent, eh bien, il va parvenir, on pourrait dire, spontanément, c'est-à-dire de manière non délibérée, à son bien. D'accord ? Et c'est pour ça que l'on voit tant de chiens qui sont parfaitement canins, alors qu'on voit assez peu d'hommes qui soient parfaitement humains. Vous voyez ? Le chien atteint très aisément, vous savez, j'aime bien aisément, la plénitude de la caninité. C'est comme ça qu'on devrait dire, non ? La caninité ou la canité ou la... Voilà. Mais est-ce que l'homme atteint si facilement la plénitude de l'humanité ? Il y a toujours ce problème, quoi. C'est-à-dire il y a des ratés au milieu, il fait les mauvais choix. Et alors, ce n'est pas seulement lié aux conditions extérieures. Parce que je vous l'avais dit, vous pouvez être dans les meilleures conditions, genre l'Éden, et puis vous faites des mauvais choix. Ce n'est pas simplement que vous n'avez pas tout reçu. D'accord ? Regardez bien que l'histoire du péché originel dans le livre de la Genèse, c'est un truc qui va à l'encontre d'une pensée qui serait trop rousseauiste ou, vous savez, où le mal vient des structures extérieures. Parce qu'on a des structures mauvaises, qu'on est méchants. Nous, on est des innocents et puis on a été corrompus par le... Mais c'est bien le signe que... Non. Alors même qu'on aurait tout reçu, on peut... Et ça, c'est le signe d'une certaine liberté, hein, fait qu'on est livré aussi à notre conseil, qu'on a une responsabilité, eh bien, on peut s'égarer. On peut pécher, c'est-à-dire, en grec, étymologiquement, on peut rater la cible. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous avais dit en début d'année que l'homme était le seul animal qui pouvait rater sa vie de sa propre faute, en plus. Donc, l'homme parvient à son bien délibérément, c'est-à-dire qu'il doit faire des choix qui lui permettent d'atteindre ce bien. Alors, vous pouvez dire, mais ce serait peut-être mieux de revenir à l'instinct. Vous savez, il y a le rêve de sortir de la moralité ou de croire que la vraie moralité, ce serait quelque chose qui serait une sorte de régression vers un instinct, par exemple. Et c'est un peu ce que vous trouvez chez certains chrétiens qui appellent l'Esprit Saint et qui croient que l'Esprit Saint va venir en eux comme une sorte de second instinct. Ils n'ont plus besoin à réfléchir ce qu'ils vont faire. Oups, ça se fait automatiquement, dans une sorte de spontanéisme pur. Mais l'Esprit Saint, bien sûr, nous porte, nous guide, nous donne une énergie, mais il ne nous prive pas de notre faculté de choisir. Au contraire, il va, je pourrais dire, la fortifier. Il va nous rendre encore plus libres, mais donc aussi encore plus responsables. Vous voyez ? Souvent, certains pensent la venue de l'Esprit Saint comme une sorte de régression à un état d'irresponsabilité. Le repos dans l'esprit, vous voyez. Régression à un état d'irresponsabilité, absence d'effort, absence de... Vous voyez, tout se fait dans une sorte de fluidité. Et en fait, vers une régression bestiale. Non. Il est normal qu'on s'interroge sur le bien et que l'on fasse des choix. C'est pour ça que des écarts sont possibles. C'est pour ça que l'immoralité est possible. C'est pour ça que... Mais ça fait partie de notre humanité. Qu'on rate, qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on soit relevé surtout. Vous voyez ? Donc, voilà ce qui se passe. Je suis libre, je désire le bonheur, et donc la question vient... Vous voyez, ce sont ces deux choses-là qui impliquent la question que... dois-je faire pour être heureux ? Et donc, que dois-je ? C'est le verbe devoir, typiquement un verbe lié à la morale, jusqu'à devenir un substantif, le devoir. Que dois-je faire pour être heureux ? Eh bien, dans une première analyse, juste une remarque, Kant ne pense pas comme ça, mais voilà, je vous le dis à l'avance, c'est ça qu'il va essayer de démonter, Kant. Mais dans une première analyse, qui est une analyse, je dirais, plus humaine, plus spontanée, plus simple, c'est à la croisée de la liberté et du bonheur que se pose la question morale. Ce n'est pas contre la liberté et contre le bonheur, mais c'est sur le fait que je suis libre, donc je dois délibérément atteindre le bien, et à cause de ça, je vais dire, que dois-je faire ? C'est là que se pose la question morale. À la rencontre de mon libre arbitre et de mon désir du bien. Si nous vivions par instinct, il n'y aurait pas de question morale. D'accord ? S'il n'y avait pas de liberté. Donc, comprenez bien, la morale n'est pas du tout un obstacle au libre-arbitre, puisque, au contraire, elle est la manière de répondre à, non seulement son existence, le fait qu'on est libre, mais en plus à ce qui fait son élan profond, qui est un appétit ou une volonté du bonheur. D'accord ? C'est comme ça, généralement, que c'est pensé par... Si vous voulez, toute la tradition classique, on pourrait dire, de la philosophie morale. Donc, que dois-je faire pour être heureux ? Et ça va impliquer plusieurs choses, hein, mais d'abord, d'essayer de penser quelle est la nature du bien. En quoi consiste le bien ? Et la première chose qui devrait nous venir à l'esprit, c'est que le bien, c'est donc édoné en grec, ça veut dire plaisir. En première approximation, on pourrait dire que le bien, c'est le plaisir. On est tous d'accord pour reconnaître que quand même, le plaisir fait partie des biens. On ne met pas tous notre plaisir dans la même chose, mais en même temps, donc là, vous voyez, on aura un conflit, mais dès que vous dites plaisir, à la limite, on peut s'accorder assez facilement. Donc, tous les hommes cherchent à être heureux, ça signifie « cherche le plaisir ». Et dès lors, le seul commandement, l'unique commandement, c'est « fais-toi plaisir ». Vous comprenez ? Fais-toi plaisir, vas-y. N'aie pas peur, fais-toi plaisir. Dites-vous bien que certains théologiens ont pu penser qu'en cela aussi résidait la morale chrétienne. C'est pour ça que je suis en train de vous montrer des systèmes moraux, c'est-à-dire des manières de voir la morale qui pourraient s'appliquer. On pourrait dire, peut-être que le christianisme, ça marche comme ça. Après tout, qu'est-ce que nous recherchons ? La béatitude, donc une sorte de plaisir divin, d'accord ? Extatique, divin. Quand les gens, vous voyez, vous avez toute une morale qui dit, vous êtes en train peut-être de souffrir ici-bas, mais le but que vous visez, c'est un plaisir dans l'au-delà. Peut-être que le puritanisme, c'est un hédonisme en fait. Hein. Vous savez, cette sorte de puritanisme où vous dites, vous allez souffrir ici-bas, etc., mais et vous êtes en train de travailler pour jouir là-bas. Donc, ce serait un hédonisme, au fond. Vous voyez, l'hédonisme dépasse largement le contexte strictement épicurien. L'enjeu, c'est d'essayer de voir un mode de pensée la vie morale. Est-ce que ce que l'on vise en morale, c'est le plaisir ? Et est-ce qu'on peut réduire tout commandement a « fais-toi plaisir ». D'accord ? Oui ? Politique. Alors, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai très subtilement escamoté cette question-là, parce que si j'avais mis une troisième donnée, je suis un être social, donc liberté, bonheur, socialité, si vous voulez, la question aurait été laquelle ? Que devons-nous faire ? Voilà. Et vous avez raison, en fait. Hein, vous avez raison que j'aurais dû poser la question comme ça. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait ? Parce qu'en fait, la pensée d'Épicure est une pensée qui est largement, je ne vais pas dire individualiste, parce que pour l'Antiquité, vous voyez, le mot ne s'y prête pas, mais largement recentrée sur l'individu. Pour une question qui est très simple, c'est qu'à l'époque d'Épicure, en Grèce, le domaine politique est devenu désastreux et que l'enjeu pour lui, c'est de chercher d'une certaine façon un salut en dehors de la politique. C'est pour ça que le lieu des épicuriens, c'est un lieu qui est d'une certaine façon en retrait de la cité, qui s'appelle le jardin. Vous voyez ? Donc je pars de ce point de vue-là, et si je pars du jeu d'abord, vous voyez, de moi, c'est aussi parce que spontanément, c'est comme ça qu'on voit la morale aujourd'hui. Voilà. Mais vous avez raison, votre objection est valide, hein. Je ne veux pas la nier. Mais donc, j'ai provisoirement mis de côté cela pour essayer de le penser à partir de l'individu.
L'hédonisme ne rejette pas forcément la société, c'est juste une vision très individualiste de la société comme moyen pour le plus grand nombre d'atteindre son plaisir.
Oui, oui, on pourrait le dire comme ça, mais il y a quand même aussi l'idée de se mettre en retrait des affaires. Vous voyez ? à différence du stoïcisme. Le stoïcisme, enfin souvent les stoïciens ont été des grands chefs d'État, des politiques, des, ouais. Mais c'est un peu différent dans l'hédonisme. On va voir pourquoi. Donc on pourrait dire, fais-toi plaisir, et immédiatement, vous allez vous dire, oulala, c'est dangereux, on va vivre dans la débauche, on va faire n'importe quoi, on va sauter sur tout ce qui bouge. C'est ça, vous pourrez dire ça. Mais la force d'Épicure, c'est d'être justement le penseur de l'hédonisme. Donc quand vous êtes le penseur de l'hédonisme, vous voyez, vous essayez d'être cohérent et vous voyez tout ce qu'impliquerait cette phrase « fais-toi plaisir ». Vous allez vous rendre compte que quand vous commencez par dire « fais-toi plaisir », vous allez arriver à quelque chose d'ultra-puritain. C'est ça le génie d'Épicure, c'est de nous avoir montré que l'hédonisme n'avait rien à voir avec la jubilation permanente. Que l'hédonisme, si vous dites « dans toute chose tu dois rechercher le plaisir », eh bien c'est le commencement des plus grands embarras et même peut-être le commencement d'une pensée hyper calculatrice. Vous voyez ? Et ça, c'est Épicure qui va le montrer. Alors, on va essayer d'approcher cette question-là. Vous savez qu'Épicure est l'auteur d'une œuvre monumentale. On pense que c'est un des écrivains de l'Antiquité qui a le plus écrit. Il ne nous reste de lui que 3 lettres. Là, je vous dis ça, parce que si vous pensez écrire pour la postérité... voilà ce qui est arrivé à Épicure, hein. On s'en souvient, mais enfin, bon, il ne reste que 3 lettres sur des centaines et des centaines d'ouvrages, qui sont des sortes de résumés, mais enfin, bon, assez approximatifs. Voilà, donc, de toute façon, vous savez bien, aujourd'hui, on ne peut plus travailler pour la postérité, de toute façon, la postérité sera analphabète, en tout cas complètement numérisée, elle sera, si vous voulez, vous n'avez pas à écrire de livres, en tout cas, c'est ça ce que je veux dire, ni de faire de philosophie, c'est pas bon pour la postérité. Ça n'intéresse plus personne. Faites des algorithmes. Voilà. Donc, il écrit une œuvre monumentale. Déjà, on pourrait s'interroger, vous voyez, parce que quelqu'un qui professe l'hédonisme, le plaisir, on aurait pu se dire, ben, on va le voir plutôt dans des orgies, dans des... non, c'est un type qui bosse, quoi, Épicure. Il a passé du temps avec ses tablettes, son calame, vous voyez, pour écrire dedans et pour faire cette œuvre. Donc ça, c'est ça, être un épicurien, c'est d'abord écrire des livres, si vous voulez. On pourrait penser ça. Deuxième chose, hein, pour vous rappeler un peu qui était Épicure. Épicure était un homme dont on vantait beaucoup la piété. Épicure pratiquait les rites religieux. Vous avez un très beau livre du père Festugière, qui était un jésuite, me semble-t-il, grand spécialiste de philosophie antique. Il a écrit sur Socrate, sur Épicure, sur tous les plus grands penseurs de l'Antiquité, avec une très profonde intelligence. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Épicure et ses dieux », qui montre, qui essaye de penser ce qu'était la religion d'Épicure. Donc religion où il y a une pratique, hein, vraiment. D'ailleurs, vous savez que chez les anciens, la religion n'est pas la foi, c'est plutôt le faire. Hein, vous devez passer par des rituels, c'est pas avoir la foi. Croire, c'est pas croire, c'est faire. Croire, c'est quelque chose qui va devenir très très important, notamment avec le christianisme. Même dans le judaïsme, hein, c'est pas si important de croire. Dans le judaïsme rabbinique, on vous dit l'important, c'est pas de croire que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. D'accord ? Vous connaissez la grande blague juive, hein, il dit, mon fils, tu dois savoir 2 choses. Dieu n'existe pas et nous sommes son peuple. Voilà. Mais ça, ça c'est typiquement juif, ça montre qu'on court-circuite un petit peu cette question de la foi et que le rabbin va dire, attendez, c'est pas d'abord la question de la foi qui est en jeu, c'est l'étude. Étudie la Torah. Étudie la Torah, le Talmud, et là, tu es juif. Vous voyez ? Il y a même l'idée d'une méfiance à l'égard de la foi comme quelque chose d'un peu trop subjectif, sentimental, ma relation avec Dieu. Non, non, il faut que tu passes par l'objectivité de la loi. Vous voyez ? Ça, c'est typiquement juif. Donc, comprenez, hein, la religion n'a pas toujours été, ou n'est pas systématiquement encore aujourd'hui, pensée d'abord à partir de la question de la foi. Et ça, les chrétiens devraient y réfléchir, parce qu'en réalité, effectivement, la religion, c'est d'abord le rituel. Et un rituel qui permet de former une communauté. Autour duquel, c'est ça la religion, premièrement. Alors, je passe là-dessus, donc un homme pieux, un homme extrêmement généreux, qui a souvent partagé ses biens, et puis qui vivait donc dans ce jardin, dans une sorte de communauté, hein, qui ressemble en fait à un monastère. D'ailleurs, Épicure dira, c'est mieux de ne pas se marier. Alors qu'il est le penseur de l'hédonisme, hein. Très intéressant. Fais-toi plaisir, donc ne te marie pas. Bon, c'est assez logique hein, en même temps, hein, vous comprenez. Saint Paul dit presque la même chose. Non. Je veux vous éviter les tribulations, et tout ça. Bon. Mais vous voyez donc, faites attention quand on a parlé des pourceaux d'Épicure, quand on a assimilé le fait d'être un épicurien au fait d'être une sorte de bon vivant, débauché, etc. C'est un contresens historique. L'épicurisme, vous allez voir, c'est une morale du plaisir, c'est vrai, d'où la possibilité du contresens, mais c'est une morale du plaisir cohérente qui va donc aboutir à une critique de la raison hédoniste, c'est-à-dire à dire, bah oui, bah, d'accord, tu cherches le plaisir, mais ça implique quoi ? Et vous allez voir ce que ça implique. Des choses assez curieuses, assez inattendues. Alors déjà, le point de départ de la grande lettre morale que nous avons d'Épicure, la lettre à Ménécée, dont vous avez tous entendu parler, au moins dans vos cours de philosophie en terminale, ou en quatrième année, devrais-je dire ici, propose un tétrapharmakon. C'est-à-dire un quadruple remède. Tétrapharmakon, quadruple remède. Parce que l'homme est dans le trouble. Il est pris dans certains mots qui sont de quatre types, mais qui se ramènent tous d'une certaine façon au trouble ou à la peur. Ça, c'est très intéressant. Vous savez, il y a beaucoup de morale que vous retrouvez aujourd'hui dans des trucs de développement personnel qui démarrent avec cette idée que l'enjeu, c'est de vaincre ses peurs. Vous savez ? Avec cette idée d'identifier le mal à la peur. Est-ce que vous pensez que c'est juste ? Qu'est-ce que vous proposeriez comme objection au fait que la peur est systématiquement mauvaise ? Oui, Léonore ?
Parfois, la peur, c'est un moteur pour aller vers le bien,
que ça peut être un moteur pour aller vers le bien, oui. Ça peut même être une manière de freiner son moteur, parce que, vous voyez, si vous aviez sur l'autoroute des gens qui n'ont absolument pas peur de mourir, ça ne serait pas très bien, vous voyez. Il y a beaucoup d'accidents. Oui, que la peur est une chose qui nous permet de voir le danger et donc de survivre, bien sûr. Vous pouvez même aller plus loin. Bien sûr qu'un sage bouddhiste, c'est un sage qui, d'une certaine façon, s'est placé au-delà de la peur. Mais curieusement, celui qui est le verbe fait chair, donc la sagesse incarnée, il a eu peur. Il a voulu avoir peur. Ça, c'est très curieux. Et il ressentit frayeur et angoisse. Et le fait que la peur est assumée par Dieu, dans son incarnation, dans son humanité, c'est quelque chose qui renverse complètement tout un type de sagesse où il faudrait être au-delà de la peur. Et donc, non seulement la peur comme ce qui nous prévient du danger, mais la peur dans ce qu'elle a aussi, je dirais, de sordide, de terrible, de paralysant, de « on fait dans son froc ». Ce qui prouve que vous avez un froc, d'ailleurs. Je dis ça pour les prêtres, que vous n'avez pas défroqué, donc. Mieux vaut faire dans son froc que défroquer, c'est ça ce que je veux dire. Voilà la sagesse du jour. Sagesse sacerdotale. Cela pour dire que, oui, le Christ ressent frayeur et angoisse, et il a la sueur de sang à ce moment-là, vous voyez. Donc, l'abîme aussi de la peur a été assumé par le Christ. Ça, c'est très mystérieux pour nous, c'est pas Bouddha. Hein. Vous mettez Bouddha en croix, il dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sourit. Et ça, c'est toute une série de sagesse qui voudrait dire, voilà, le problème, c'est la peur. Le mal n'est au fond qu'une sorte d'illusion. La tragédie, ouais, c'est vous qui la faites. Mais il n'y a pas vraiment de tragédie. D'accord ? Et toutes ces stratégies d'évitement, finalement, où on dit, voilà, on essaye de passer par-dessous la vague, voyez, ou faire comme si le mal qu'il y avait dans le monde n'était que le produit d'une mauvaise perspective sur le monde. On va voir une série de morales où c'est vraiment comme ça que c'est pensé. Mais est-ce que c'est ça ? Donc là, on a déjà une première apparition de ce phénomène. Le problème, c'est des choses qui nous troublent, qui nous font peur, et il faut les dépasser. Alors, quelles sont ces choses ? Il y en a quatre, pour Épicure. Les dieux. On a peur des dieux, hein. La mort, bien sûr, la souffrance et l'avenir. Voilà les quatre choses qui nous troublent. Nous avons peur des dieux parce que les dieux ont un pouvoir supérieur, peut-être capricieux, d'où vous voyez le rituel souvent chez les païens. Ça a été d'essayer de s'attirer la faveur des dieux ou de déjouer la colère des dieux. C'était toujours cette crainte par rapport aux dieux. Vous n'imaginez pas que dans cette société-là, l'athéisme était beaucoup plus difficile parce qu'on était sur un rapport de peur. Il a fallu d'une certaine façon que le christianisme arrive, le judéo-christianisme arrive et balaye d'une certaine façon cette vision d'un dieu qui fait vraiment peur. Pour qu'on se dise, bon, bah, s'il ne fait pas peur, oui. Et d'une certaine façon, on vivait toujours dans une sorte de négociation permanente avec les esprits. Regardez dans l'animisme, dans les religions païennes, il y a quelque chose. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi une vraie piété qui passe à travers ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, c'est, voilà, on négocie, je te donne ça, est-ce que tu vas me donner ça ? Vous savez, le fameux discours de Paul devant l'Aréopage, où il dit « J'ai vu que vous aviez un temple au Dieu inconnu, et c'est ce Dieu inconnu que je viens vous annoncer, etc. » Et vous avez des tas de dieux, et puis il y avait aussi... Mais en réalité, on sait très bien qu'à l'époque, c'était parce qu'on avait peur d'en avoir oublié un. Parce que vous avez fait tous les rituels pour tous, voyez, vous les ralliez, quoi, pour vous dire, voilà, je suis ton copain, vas-y, sois gentil avec moi. Et alors la grande angoisse, c'est de dire, merde, si j'en ai oublié un. Donc vous aviez un temple pour faire le rituel pour tous les dieux restants, voyez, dont vous ne connaissez pas les noms, mais qui sont peut-être des puissances qu'il faudrait quand même vous accommoder si vous voulez bien vivre. Voilà ce que voit Épicure. Et voilà déjà, d'ailleurs, une première rationalité théologique qui va entrer hein, dans... Épicure est un théologien, hein, faut pas oublier. Il va faire une critique, vous voyez, de ces rapports, en fait, superstitieux. Et il va, d'ailleurs, être une étape, Épicure, vers la vraie religion, on pourrait dire. Parce qu'il va critiquer cette modalité qui est éminemment superstitieuse. C'est le contraire de la religion, hein, dans le monde antique, en tout cas dans le vocabulaire de Cicéron, ce sont des termes latins ici, c'est la superstition. Ce n'est pas la science, hein, le contraire de la raison, c'est la superstition. Et donc, ici, Épicure va d'abord montrer que la peur des dieux est complètement infondée. Parce que c'est se tromper sur la nature des dieux. Si vous en avez peur, c'est que ce ne sont pas des dieux. Si ce sont des dieux, vous n'avez pas à en avoir peur. Voilà ce qu'il dit. Et remarquez que c'est déjà de la théologie rationnelle. Voyez. Tenant le dieu pour un vivant immortel et bienheureux, selon la notion du dieu communément pressentie. Donc vous voyez, il part d'une notion qui serait commune. Si c'est un dieu, ça n'est pas un mortel. Si ce n'est pas un mortel, il est immortel. Et en plus, on peut dire qu'il est bienheureux. Voilà, c'est la notion de base. Donc, si tu tiens Dieu pour cela, ne lui attribue rien d'étranger à son immortalité, ni rien d'incompatible avec sa béatitude. Vous voyez, ici, il y a un effort de déduction à partir d'une notion. On est dans une théologie rationnelle. Crédite-le en revanche de tout ce qui est susceptible de lui conserver avec l'immortalité cette béatitude. Car les dieux existent, remarquez que l'hédonisme épicurien n'est pas du tout athée, les dieux existent. Que sont-ils? Ils ne sont pas immatériels pour Épicure, ça c'est certain. Ils sont immortels mais ils ne sont pas immatériels. Tout est matériel chez Épicure, il n'y a pas de... Enfin, vous comprenez que si tout est matériel chez Épicure, sa notion de matière n'a rien à voir avec notre notion contemporaine de matière aussi. Donc, faut toujours faire attention à ne pas dire « Épicure était un matérialiste, donc il est notre contemporain », parce que le matérialisme d'Épicure n'a rien à voir avec le matérialisme contemporain. Le matérialisme contemporain est d'ailleurs plutôt un dématérialisme, puisque tout est ramené à de l'équation, à... si vous voulez, de la certitude, de la prédiction dans les sciences contemporaines. Il faut pouvoir prédire pour pouvoir manipuler le réel. Et donc, à cause de ça, vous voyez, on n'est pas du tout dans ce qui était vraiment le matérialisme, parce que le matérialisme, l'idée qu'il y avait de la matière, c'était l'idée qu'il y avait de la contingence, des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Et Épicure insiste d'ailleurs, enfin, tout l'épicurisme, va insister sur justement le caractère aussi, vous voyez, de hasard, de contingence qu'il peut y avoir dans l'existence. Donc, vous voyez, la matière, c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose qui échappe à la certitude. Alors que dans le matérialisme contemporain, c'était plutôt essayer de ramener à, vous voyez, une possibilité de prévoir et de contrôler. C'est pour ça que Jean-Luc Marion, je vous l'avais dit en début d'année, parle plutôt de dématérialisation dans la science contemporaine. Donc, qu'est-ce que c'est les dieux, la nature des dieux? En tout cas, il ne dit pas qu'ils sont immatériels, mais ils sont immortels et bienheureux, tout le monde partage cette idée-là. Alors, ils existent, mais tels que la foule les imagine communément, ils n'existent pas. Les gens ne prennent pas garde à la cohérence de ce qu'ils imaginent. Vous voyez, appel à la cohérence, ouais, c'est pour ça que c'est un philosophe. N'est pas impie qui refuse les dieux populaires, mais qui, sur les dieux, projette les superstitions populaires. Les explications des gens à propos des dieux ne sont pas des notions établies à travers nos sens, mais des suppositions sans fondement. Vous voyez la notion de sens chez Épicure, toute connaissance chez Épicure est sensible. Mais le sens aussi, à cause de ça, c'est aussi l'intelligence chez lui. Et donc, vous voyez, il y a un transfert. Il ne faut jamais essayer de lire Épicure à partir d'une autre théorie, parce que si le sens, c'est aussi l'intelligence, ça veut dire que ce n'est pas exactement la même conception de la sensibilité que ceux qui distinguent des facultés de connaissance sensible des facultés de connaissance intellectuelle. De là l'idée que les plus grands dommages sont amenés par les dieux, ainsi que les bienfaits. Donc voilà ce qu'il veut déjouer. L'idée que les plus grands dommages viennent des dieux. Voilà, c'est ma mauvaise étoile, c'est voyez, les dieux qui me punissent, les dieux qui me récompensent, les dieux... Et donc on aurait ce trouble, cette peur des dieux. En fait, c'est en totale affinité avec ses propres vertus que l'on accueille ceux qui sont semblables à soi-même, considérant comme étranger tout ce qui n'est pas tel que soi. Donc... ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est qu'on projette sur les dieux ce qui est notre propre vie humaine, et il dit, attention, si ce sont des dieux, vous ne devez pas faire cette projection. Ça, c'est de la superstition. L'anthropomorphisme est la grande erreur, si vous voulez, dans la conception des dieux. Donc déjà, vous avez vu, hein, chez Épicure, il y a cette critique de l'anthropomorphisme dans le rapport aux dieux. Et alors, ce qu'il va dire, c'est que si les dieux sont immortels et bienheureux, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, ils ne s'intéressent pas à nous. C'est pourquoi nous n'avons pas à en attendre des punitions ni des bienfaits. Les dieux vivent dans une sorte de souveraine autarcie, autarkeia, on pourrait dire autonomie. Vous voyez ? Et donc, ils ne viennent pas à notre secours, mais ils ne viennent pas non plus nous causer du dommage ou des préjudices. Ça, c'est très intéressant parce qu'il aurait pu penser à cet endroit-là, il aurait pu dire, s'ils sont bienheureux, alors, comme le bien se répand, se diffuse, il répand ses bienfaits sur nous, vous voyez. Ça, ça sera une thèse qu'on trouve dans le platonisme, par exemple. Mais là, il n'y a pas ça. Encore que dans le platonisme, ça ne suppose pas un rapport personnel à Dieu. Hein. Ça suppose, c'est automatique, le fait que les biens se répandent. Alors, est-ce que, dès lors, ils ne nous font pas de bien? Si, ils nous font du bien, mais pas dans la négociation, à titre d'exemple. C'est-à-dire que nous pouvons les imiter et que tout le but de la morale, c'est de parvenir à une imitation des dieux. C'est-à-dire, de même que les dieux vivent dans une certaine autarcie, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de rien, nous allons essayer de ne pas avoir besoin de grand-chose. Plus le sage arrivera à se suffire à lui-même, plus il ressemblera à un dieu. Si vous voulez, le divin se résume dans la pensée d'Épicure à l'autosuffisance. Ce que, en vocabulaire technique de la théologie catholique, on pourrait appeler l'aséité. A-S-E-I-T-E. Ça veut dire assez, par soi, à partir de soi. Il existe à partir de soi. Ils ne sont pas par un autre, mais par soi-même. Et l'interprétation de l'aséité, c'est-à-dire de l'autosuffisance ou de l'autarcie des dieux, c'est de dire, mais dès lors, nous pouvons leur rendre un culte, non pour négocier avec eux, mais pour essayer de leur ressembler. Vous voyez ? Nous devons essayer de leur ressembler, c'est-à-dire de devenir autosuffisants comme eux sont autosuffisants. Donc il y a une religion d'Épicure. Hein. Et cette religion cherche à se débarrasser de la superstition, se débarrasser d'un rapport, je dirais, de négoce avec les dieux, d'un rapport de peur pour nous renvoyer à un rapport d'imitation. Notez hein, que c'est quelque chose que l'on retrouverait aussi dans le christianisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on est tout le temps à négocier avec Dieu ? Vous voyez, mais nous sommes à l'image de Dieu et le but, c'est justement de déployer cette image, donc une ressemblance. Mais en même temps, il y a aussi une critique de ça, parce que vous serez comme des dieux, c'est aussi l'idée d'une autosuffisance pleine de soi, mais cette autosuffisance pleine de soi chez la créature, c'est ça le péché, si vous voulez. Ne pas voir qu'on est par un autre et qu'on a besoin de cet autre, vous voyez, pour être. Donc il y a quelque chose, vous voyez, d'ambigu. Il y a une première purification du religieux, mais il y a quelque chose qui n'est pas vu. Oui.
Est-ce que sa religion n'est pas beaucoup destructrice dans le sens où si on cherche, si on pousse jusqu'au bout cette volonté d'autonomie et de ressembler aux dieux, bah, au final on n'aura plus besoin des dieux si on arrive à accomplir vraiment à les imiter et eux ils se prient pas eux-mêmes et si on veut vraiment être autonome et indépendant, bah, c'est aussi vis-à-vis des dieux.
Oui, mais la réalité c'est que le mortel n'est pas un immortel. et qu'il ne peut jamais être complètement autonome et indépendant. C'est pour ça qu'on pourra, Épicure pourrait répondre qu'on a toujours besoin de ce modèle-là. Voilà. Il y a les vrais immortels et bienheureux, mais nous ne le sommes. Ouais. L'autarcie qui est en droit de rechercher le sage ne peut pas être une autarcie absolue. Donc il a toujours besoin de cet horizon, de ce modèle, comme un peu ce que Kant appellerait une idée régulatrice, quoi. Mais c'est pas. Vous voyez, donc. Mais vous avez raison, hein, de toute façon, présenter. La divinité, en termes de souveraineté autosuffisante, peut être une des origines de l'individualisme contemporain. Je pense que c'est ça aussi votre intuition, hein, de l'individualisme athée. Mais que ça a dépendu d'une certaine théologie. Et vous n'avez pas tort. Parce qu'à partir du moment où on présente Dieu dans sa souveraineté même comme trinité, donc comme communion de personnes, c'est la seule manière d'empêcher, si vous voulez, une totale, tout en affirmant, si vous voulez, le fait que Dieu n'a pas besoin des créatures, mais en même temps montrer qu'on ne peut pas penser à travers une simple autosuffisance personnelle. Vous voyez, donc là, vous touchez peut-être à quelque chose qui est très profond, hein, et qui montre le caractère éminent de la théologie trinitaire. Vous voyez ? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça, je pense que ça rejoint votre intuition, en tout cas. C'est n'importe quoi ce que je fais, parce qu'en fait, je dis, voilà ce que vous êtes en train de dire. Et après, je dis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis désolé. Hein. Parfois, je fais ce genre d'usurpation, en fait. Je fais de la ventriloquie. Je dis, bon, voilà, c'est ça ce que tu disais, Clément, hein, n'est-ce pas ? Alors, il fait, oui, c'est moi qui parle.